Vous écoutez
RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosie, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'afterfoot. On est ensemble jusqu'à minuit comme tous les soirs, à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. À mes côtés, en ce samedi soir, ils auraient préféré être en terrasse à Paris peut-être.
Oui, on est bien.
Ou à Nice, ou à Boulogne.
On est bien, on va pas exagérer quand même.
Respecte un peu ton ancienne ville, Damien.
Boulogne-Billancourt.
Non, sur mer.
Sur mer.
Ah, ouais. Sur le port de Boulogne, là, tranquillement. Regardez les mouettes qui vont vers l'Angleterre.
Apprendre le vent, apprendre. Pourquoi pas.
Les embruns. Damien Perrinel, salut Damien.
Bonsoir tout le monde.
Avec nous ce soir jusqu'à minuit, bien sûr. Et François Manardeau, là le matin.
Bonsoir. Bienvenue dans le vrai after du mois de juillet.
Ah,
bien sûr.
Bien,
allez, oui. Petit clin d'œil à notre ami Momo Bouafsi, que je salue. Pour son petit tweet. Alors, du jour.
La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vrai ou de faux after. Il y a juste l'after. C'est comme le PSG, la marque, au-dessus de tout. L'institution. Non ?
Le mot de la fin est pour Nico Jamain.
On ne fera pas mieux.
Ce soir, messieurs, au programme de l'after tout court, la défaite du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan au tir au but. Beaucoup de choses à dire, notamment sur le poste de gardien de but, sur Alphonse Areola. Énormément de commentaires sur la prestation du gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Est-il légitime ? C'est l'éternel débat. Pourquoi tu rigoles déjà, François ?
Parce qu'il est la séance de tir au but, il part tout le temps de
nous. Oui, ça, on va en parler. 7 tirs au but, 7 fois à contre-pied. On essaiera de le défendre, enfin, j'essaierai de le défendre un peu parce qu'il en prend le pauvre plein sur les réseaux sociaux. Alphonse Areola est-il un problème pour le Paris Saint-Germain ? Arsenal sur le point de doubler le Napoli pour récupérer Pépé, l'attaquant de Lille. On parle d'un transfert de 80 millions d'euros pour rejoindre, ça aurait de la gueule, hein, Aubameyang, Lacazette, Pépé.
Ah là, ça peut flasher. Hein. Je pense que les flics anglais peuvent flasher avec les radars.
Ouais, avec les radars. Le mercato show, évidemment, plein d'infos à donner concernant notamment Romelu Lukaku, qui s'amuse avec les médias. Et justement, on va ouvrir un vrai thème qui va vous intéresser, messieurs, qui va intéresser tout le monde. Les footballeurs et la communication. Pourquoi sont-ils de plus en plus tièdes devant les caméras, devant les micros? Pourquoi autant de poncifs, hein, le match les uns après les autres? L'essentiel, c'est les 3 points. Est-ce la faute des conseillers en communication? Est-ce la faute de la presse également? Est-ce qu'ils ont peur des médias?
La faute des joueurs.
La faute des joueurs aussi. On en recevra 2 ce soir, pas des joueurs, mais on recevra 2 conseillers en communication. Ouh. Guillaume Stéphan, fils de Guy et frère de Julien, entraîneur du Stade Rennais, qui accompagne les joueurs pros dans leur carrière et leur communication. On aura également un joueur qui sera à nos côtés pour nous dire pourquoi est-ce qu'il a peur des médias, pourquoi sont-ils si prudents. Tu vas nous dire également, Damien, ton expérience américaine également, la différence de traitement, de communication aux États-Unis et en France. Bien sûr, c'est un sujet passionnant qu'on évoque souvent dans l'after et qu'on va développer ce soir. Macao, cet après-midi, le PSG a été battu. Match de préparation à une semaine pile du Trophée des Champions en Chine face au Stade Rennais. 1-1 à l'issue du temps réglementaire. But de Thilo Kehrer pour le PSG. Égalisation dans les arrêts de jeu de Longo pour l'Inter Milan. Victoire 6-5 pour l'International de Milan. Composition du PSG, messieurs, on la rappelle. Dans le but, Areola, Kehrer, Diallo, Kurzawa en défense, Meunier, Bernat sur les côtés, Verratti, Herrera, Sarabia, Mbappé, Draxler. On jouait donc en 3-5-2. Je rappelle également, je précise que Cavani est entré en jeu à 20 minutes de la fin avec tous les jeunes du PSG, hein, les titis parisiens.
Et Ressé.
Et Ressé, exactement. Neymar, précision également, Kimpembe sont restés à Shenzhen. Cavani était sur le banc, il est rentré. Marquinhos, Thiago Silva, Paredes, Di Maria absents, n'arriveront que mercredi à Shenzhen pour la première fois depuis le début de la préparation. Le coach du PSG, Thomas Tuchel, a maintenu son équipe de départ quasiment tout le match. Ça, c'est important. Vous la découvrez sur RMC Sport News, l'équipe qui a débuté ce match face à l'Inter Milan, premier gros test pour le PSG. Mais si vous avez pensé quoi de la prestation du PSG, Damien, qu'est-ce que tu n'as pas aimé par exemple?
Le terrain.
Le terrain était très catastrophique.
C'est un vrai champ de patates, là. Non,
et puis d'autant plus qu'avec l'humidité, hein, qu'il y a là-bas, c'est vrai que c'est pas simple. Ceci dit, même si on est sur un terrain médiocre,
J'étais médiocre pour les deux équipes, je suis d'accord.
Il y a quand même mieux à faire, notamment dans l'implication. Il y a qu'à voir, hein, dans les 5 premières minutes de ce match, il y a 2 occasions franches pour l'Inter. Non pas parce que l'Inter a bien joué les coups, mais parce qu'en fait, il y a de la dilettante dans la défense du PSG. Moi, je mets à la place d'un joueur comme Kurzawa. C'est facile de viser Kurzawa aujourd'hui.
Ouais, il est très critique, Kurzawa.
Mais quand même, ça fait, je crois que t'es au club depuis 2015. Tu fais une moyenne de matchs, une vingtaine de matchs par saison, approximativement, en Ligue 1 en tout cas. T'as une chance aujourd'hui, pourquoi pas, d'être officiellement la doubleur d'un Bernat, d'être impliqué, mais tu joues tous tes matchs, là il a joué les 3 premiers matchs titulaires depuis le début de saison, mais en fait il a plus faim, il n'a plus envie. C'est incroyable de voir ce joueur sur le terrain.
C'est vraiment ce que t'as ressenti?
Mais c'est-à-dire que
aujourd'hui,
tous les dangers, les approximations, les placements, aucune agressivité, voilà, c'est vrai que je suis un peu dur avec lui. Mais peut-être qu'il part, va voir autre chose et repart à zéro, remets-toi en question. Je pense que ça lui ferait du bien. Après, au-delà de ça, quand je faisais je regardais un peu la défense du PSG et puis je regardais l'âge des joueurs. Et puis je me dis, ah ouais, quand même, Kerrer, 22 ans, Diallo, 23. Mais non, en fait, t'es au PSG. C'est bien d'avoir des joueurs à jeune potentiel, des jeunes joueurs avec du potentiel. Mais aujourd'hui, en fait, Marquinhos et Thiago Silva, même Kimpembe, ils regardent ce match, ils disent, bon, on va être tranquille cette saison. Donc, la concurrence, t'en auras pas.
C'est ça le problème, François, effectivement, c'est qu'il y a un gap entre ceux qui aspirent et ceux qui sont en place.
Les deux que j'ai trouvé les plus entreprenants, parce que j'ai à quelques détails près la même analyse que toi, Damien, c'est Sarabia et Herrera.
Exactement.
Et c'est ces deux recrues qui viennent d'arriver. Alors ok, parce qu'elles viennent d'arriver aussi, mais parce que je pense aussi que c'est des joueurs qui se fondent un peu plus dans l'équipe qu'ils ne pensent à attirer la lumière vers eux. Bon voilà, je referme cette parenthèse, mais c'est ces deux joueurs que j'ai trouvé à essayer de mettre du rythme. Encore une fois, ok, terrain de merde, mais de merde aussi pour l'Inter. Mm-hmm. Chaleur étouffante, mais également pour l'Inter Milan. Et quand on voyait par exemple comment l'Inter faisait le pressing sur les sorties de balles, et des fois les sorties même Areola qui essayait de sortir le ballon sur un des latéraux ou alors le 6 qui venait récupérer, et ce que faisait l'Inter juste pour gêner la sortie de balle des Parisiens, j'ai pas beaucoup vu, voire quasiment pas les Parisiens le faire aux Italiens, le faire aux Lombards. Et j'ai trouvé que du coup déjà c'est les matchs de préparation, ça gonfle beaucoup de gens, je me demande si ceux qui ça gonfle le plus finalement c'est pas les joueurs, mais déjà de montrer un petit peu que
l'Inter quand même, il y a un petit prestige,
il y a un petit prestige, c'est pas un second couteau, loin de là, mais j'ai trouvé que l'implication, ouais, ça manquait. Et dans ses sorties de balles, alors Kurzawa, il avait aussi cette responsabilité, mais Diallo à un moment donné il perd le ballon, Verratti lui aussi, mais il n'y a rien d'infamant à ce que t'es pressé, et ben tu redonnes à Areola et il dégage loin.
Ah, c'est ce qu'il a fait sur la 94e Areola. Hein. Il a dégagé loin, le ballon est revenu très vite.
Mais c'est
on
vrai,
parlera d'Areola après.
Comparer l'Inter Milan, ce que l'Inter a proposé.
Pour essayer de mettre en place.
Parce qu'ils ont joué dans le système de Conte, hein, le 1-3-5-2, pareil, avec des lignes très resserrées. C'était très compliqué pour Mbappé de trouver des espaces. On va parler d'un point de vue offensif maintenant. Compliqué pour Mbappé. En fait, on jouait plus...
Mbappé très, très esselé quand
voilà,
même.
Voilà, mais
hein.
Paris jouait plus dans un 3-4-2-1 avec Sarabia et Draxler, qui était censé être en soutien de Mbappé.
Draxler, compliqué. Hein.
Draxler qui s'est réveillé en deuxième mi-temps vers la 60e, mais qui est sorti à la 70e. Mais voilà, Mbappé est très esselé, et j'aurais aimé peut-être voir un peu plus Sarabia et Draxler plus haut sur le terrain, parce que derrière, quand t'as Verratti et Herrera, bah eux, ils ont la capacité de faire ces relances, de casser des lignes également. Donc voilà, ça a manqué beaucoup de soutien sur Mbappé, et au-delà de ça, non, ouais, défensivement, on va revenir défensivement, mais dès qu'il y a un ballon anodin en profondeur, un ballon aérien...
Son prix de vitesse.
C'est pris tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune anticipation de la profondeur. Au-delà de ça, tu as un gardien qui parfois pourrait sortir, ne sort pas non plus. Voilà, donc des détails, c'est des détails, mais les matchs de préparation, ça sert à ça. Et il faut que tu sois prêt.
Ça sert à te donner de la confiance.
Exactement.
Parce que les joueurs, quand même, la plupart d'entre eux, ils se connaissent, même si à un moment donné, on a vu beaucoup de sang-froid qui étaient rentrés en cours de match, comme tu l'as dit, avec en plus Cavani et Ressé. Mais cette confiance-là, alors malgré nos critiques, le PSG est à 20 secondes de gagner ce match contre l'Inter. Mais finalement, c'est que justice quand tu regardes la physionomie de ce match de préparation, que l'Inter égalise et qu'après l'emporte au tir au but. Parce que dans l'envie, dans l'organisation, ils ont montré presque même dans l'intelligence de jeu, sur ce qui n'est encore une fois
qu'un match de préparation, ils ont montré plus.
Bah, ils jouent finalement, ils sont outsiders l'Inter sur un match comme ça. Peut-être qu'il y a un dépassement, motivation, un plus de motivation.
Je sais pas parce qu'ils ont
quand même... PSG quand même.
Ouais, mais ils ont quand même repris une semaine après le PSG aussi.
Oui, mais
alors pour la grosse difficulté pour Tourelle aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu fais la liste des absents, préparer une saison et quand t'as Cavani, Di Maria, Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva, Paredes, Neymar qui sont pas dans ton équipe. Forcément, c'est compliqué quand même de préparer une saison et de jouer tactique.
Ouais, mais l'état d'esprit, en revanche, c'est pas compliqué. Mais
voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Tourelle le dit hein, dans ses déclarations. Et c'est ce que je dis depuis que je fais des afters. Mais le football, tu peux parler technique, tactique, tout ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, c'est un collectif sur le terrain.
Bien sûr.
Et c'est de l'intensité que tu mets dans tes prises de balles, dans tes duels, dans tes courses, dans tout. Faut avoir de l'envie dans le foot. Alléluia. Et là, aujourd'hui, ils ont fait ce match. Voilà. Il fallait faire un match Alléluia, de foot. D'abord. C'est ce qu'ils ont fait.
Au 32-16, Paul, supporter parisien, nous a appelé. Salut Paul.
Salut les gars.
Bon. Bonsoir Paul.
Bonsoir. Salut, Paul. T'as pensé quoi de ce match? Est-ce que tu fais un constat négatif comme Damien et comme François?
Je fais un constat ni négatif ni positif. Ce match de prépa, ouais. Quand tu vois les joueurs qu'on a sur la pelouse, on va dire que les deux tiers ne seront sûrement pas sur la feuille de match dans les matchs entre guillemets importants. On est vraiment quand même en prépa. Moi, j'ai juste envie de parler de certains joueurs et de savoir ce qu'il va leur falloir pour évoluer à un bon niveau au PSG. Je pense à Herrera, je pense qu'il va jouer beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça va pas être tant un joueur de rotation que ça. J'imagine que si on recrute... si on a un Verratti à la hauteur, Gay, mais je sais pas si Verratti peut tenir la cadence.
Ah.
Est-ce qu'il peut prendre la place de Verratti? C'est pas impossible.
Bah, aujourd'hui, comme sur ta préparation, Verratti, c'est ton meilleur joueur. Et si tu dois ressortir du lot un joueur, c'est quand même Verratti, Herrera, Sarabia, voilà, ça joue vers l'avant, ça sent le football quand même.
C'est mon chouchou, Verratti, hein, mais moi j'ai toujours peur de sa tronche, de ce qu'il fait. Voilà, quoi.
De sa discipline, de son manque de discipline parfois.
Ouais, c'est pas un joueur safe, quoi. Enfin voilà, on le sait. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est au PSG. S'il avait dû vraiment devenir un top leader de cette équipe, ouais, il serait devenu il y a peut-être 1 ou 2 ans. Alors bon, il n'est pas interdit qu'il change, hein, mais voilà.
Mais sauf qu'il a un statut, j'ai l'impression, et que peu importe les saisons et peu importe une hygiène de vie, il est toujours titulaire, quasiment. En tout cas,
bien sûr,
dans l'esprit des coachs qui sont succédés au PSG, c'est un des premiers noms qu'il couche sur la feuille.
Ouais, Paul, je partage pas ton opinion. Enfin, ton opinion. T'as peur plutôt, sur Verratti qui risquerait de perdre sa place. Je pense que Verratti fait vraiment partie de ce noyau de joueurs. Damien, je sais pas ce que t'en penses, mais qui est qui est quasi assuré des titulaires. Ah,
titulaires. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand t'as Ancelotti, Emery, Laurent Blanc et
tout le monde
devait son papier quand même. Hein, donc
tout le monde a les mêmes problèmes avec lui aussi.
C'est ça. Maintenant, on espère. On sait jamais. Peut-être qu'un jour il changera et il s'y mettra sérieusement pour que ça devienne le joueur qu'il doit être normalement. Mais après. Bien sûr que c'est pas si inquiétant que ça. Mais maintenant, t'as des joueurs là. Il nous manquait de la profondeur de banc au PSG pour les gros matchs de Ligue des Champions. Donc en gros, ton banc, on va dire qu'il a joué aujourd'hui.
On va faire l'équipe.
Il a joué aujourd'hui.
Qui est titulaire?
Il faut annoncer.
Qui est titulaire
du PSG?
Voilà. Areola, oui.
Ou à 4?
Comment on joue déjà?
Alors partons sur le 3-5-2 du jour déjà, d'accord?
Mm-hmm.
Areola, titulaire.
Areola, titulaire.
Kerrer.
Non, des joueurs qui ont évolué aujourd'hui
contre l'Inter. Tu parles de droite à gauche.
Qu'on a vu.
Oui, mais ça va pas être les joueurs de l'équipe de la saison. Là, on parle d'un match de prépa qui...
C'est une équipe.
Oui, je te demande justement. On peut dire déjà quels sont les joueurs face à l'Inter qui devraient être titulaires. Areola, Kerrer, a priori. Verratti, 3. Mbappé, 4.
Voilà. Mais aujourd'hui,
quatre joueurs, a priori titulaires à début de saison.
Bernat.
Et Bernat. C'est ça.
Ah, donc t'as une équipe aux deux tiers de remplaçants et voilà, je me mets à la place d'un coach comme Tourelle et je me dis que c'est pas simple quand même de préparer une saison de cette manière-là avec beaucoup d'échéances quoi.
Sur Sarabia qui aura besoin peut-être d'étoffer un petit peu son physique
je te vois venir Paul, ouais. Le championnat de France, on lui en a parlé hein.
Ouais, parce que il top hein, techniquement,
techniquement et ça lâche le ballon vite hein, ça le garde pas, ça le mange pas.
Hein. Il a pas peur des contacts, après il a peut-être peur des contacts dans ses matchs de début de saison, c'est sûr. Mais j'espère qu'il est pas comme ça en match, je l'ai pas assez vu avec Séville, mais voilà.
Sarabia, sur les trois matchs que j'ai pu voir avec le PSG, c'est quand même un joueur. Ça va vite vers l'avant, ça joue en deux touches de balle, ça voit, ça donne, ça bouge. Ah, c'est quand même, ça sent le football, quoi. Ça pue le foot, c'est intéressant.
Merci Paul d'avoir appelé le 32-16.
Ciao les mecs,
à bientôt. Excellente soirée à toi, à très bientôt dans l'after. Bien sûr, on revient dans un instant et on va ouvrir le chapitre Alphonse Areola, qui est en top tweet PSG. C'est l'homme dont tout ou presque les supporters parisiens parlent après son match. Il était bon en première période, moins en deuxième période notamment, et encore moins sur la séance de tir au but. Que faut-il faire avec Areola? Le PSG semble un petit peu embêté sur le choix numéro 1, numéro 2, numéro 1 bis. Est-ce encore possible? Est-il un problème au Paris Saint-Germain? L'after revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Nicolas Jamain.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est l'Afterfoot effectivement, ensemble jusqu'à minuit, comme tous les soirs, RMC à la radio et à la télé sur RMC Sport News avec Damien Perrinel et François Manardeau. On débrief le match de prépa du PSG face à l'Inter Milan, à part tout score final, victoire de l'Inter au tir au but, 6 tirs au but à 5. Et on va parler du gardien du PSG, Alphonse Areola, qui est un vrai sujet de débat aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. C'est un gardien qui divise effectivement, numéro 1 du PSG. On se rappelle de l'interview de Leonardo il y a une dizaine de jours dans le Parisien, qui dit maintenant il n'y aura plus numéro 1 bis au PSG, il faut trancher, il y aura un numéro 1. Il y a quelques jours, notre information disait que la grosse tendance c'est Areola numéro 1, Trapp numéro 2, mais partant Kevin Trapp, on parlait de Porto pour lui, a priori la piste à Porto s'est considérablement refroidie, mais Areola aujourd'hui a relancé le débat sur ce match-là, Damien.
Et quand on est sur une défense jeune, comme c'était le cas, on doit avoir en plus un gardien de but quand même qui avec une certaine prestance, une certaine assurance. Et, d'autant plus qu'il y avait le brassard de capitaine aujourd'hui. Ce match, il est à l'image de la carrière d'Areola. C'est-à-dire, il les a sauvés, je ne sais pas combien de fois. Il peut y avoir 4-0 la mi-temps s'il fait pas des arrêts décisifs. Mais il y a toujours quelque chose qui vient ternir son match, c'est dommage. Après, au niveau du jeu au pied, notamment 2-3 fois en première mi-temps, il s'est fait peur ou alors il a dégagé des ballons en touche. Voilà, c'est un gardien qui a toutes les capacités et qualités pour être l'un des meilleurs gardiens au monde. Il est grand, il est vif.
Mais c'est quoi le problème alors? Il est
sa constance dans la performance, c'est dommage. Mais aujourd'hui, le PSG n'a plus le temps. Je pense de former un gardien. Aujourd'hui, il faut un gardien qui rapporte des points. Et là, Areola, aujourd'hui, la dernière frappe sur le but de l'Inter, il doit faire un exploit encore. Il doit la sortir. C'est comme ça que ça se juge.
François,
un gardien a besoin aussi d'une chose, surtout donc à ce poste, c'est un statut. Et depuis le début de sa carrière, à un niveau important. Et ça passe aussi par l'équipe de France. C'est un gardien qui n'a pas de statut. Et je pense que plus qu'un joueur de champ, à ce poste-là, alors les qualités, oui, il en a, peut mieux faire, certainement aussi, mais il n'a pas ce statut. Il n'a pas ce statut en équipe de France. Il a été pris pour faire le troisième. Il ne l'a pas eu parce que Tuchel ne lui a pas donné la saison passée pour des questions politico-prestigieuse avec Buffon, avec Trapp. Ils ont été ensemble dans le club.
Ouais, bien sûr.
C'est pas la même chose. Et aujourd'hui, cette absence, Damien, de statut, je pense qu'elle... Alors, elle le pénalise, et du coup, elle pénalise...
François, oui, mais attends, il aurait pu tuer le débat, justement, et s'imposer.
Un statut, c'est toi, t'as le droit de l'obtenir.
Statut mental, pareil, pour moi.
Un vrai gardien, tu le game, le débat, il s'impose en numéro 1. C'est ça, un très, très bon gardien.
Alors, vous pensez pas que Tuchel... Mais oui, le pouvoir, ça se prend,
ça se donne pas.
Mais quand Tuchel, tu fais venir, et le PSG fait venir Buffon... Pour aller bouffer la soupe sur la tête de Buffon, malgré ses 40 piges, hein, la saison passée, ouais, ça se prend.
Et l'année d'avant encore.
Areola est un garçon trop bien élevé, je sais pas, je le connais pas intimement. Mais on va pas lui faire de cadeau en lui donnant un statut. On lui donne un statut parce qu'on lui devine des qualités. Mais après, en termes de management, le joueur, il se manage pas tout seul. Oui, le pouvoir, ça se prend, mais c'est aussi des grands mots. C'est au coach... dans ce rôle-là, et dans 99% des clubs, de dire, ça c'est mon numéro 1, ça c'est mon numéro 2. Parce que les mecs, là, tu leur dis, voilà, la saison, elle va se passer comme ça. Toi, tu vas jouer le championnat, et la Ligue des Champions, quand tu joues la Coupe d'Europe ou l'Europa League, et toi, tu joues les coupes. Ouais, et ça marche, et le deal, il est clair.
François, regarde, dans un club comme au Real Madrid, t'avais un gamin, Iker Casillas, qui arrive avec des galactiques, tout ce que tu veux autour de lui.
Mais là, tu parles d'une légende, là.
Bien sûr, une légende. Mais je veux dire, il était dans un club, là, dans le même style. Mais il a pris sa place. C'est lui qui a gagné sa place. Et il y avait plus de débat derrière. Ouais. Plus de débat.
Moi, je vais vous poser une question, les amis. C'est qui pour vous le meilleur gardien de la Ligue 1? De la Ligue 1?
Il est à Lyon, peut-être. Anthony Lopez.
Ouais. Pour moi, il est
dans un top 3,
soit à Lyon, soit à Nice.
C'est vrai.
Parce que Walter Benitez, pour moi, est meilleur qu'Alphonse Areola.
Mais là, après, ouais, il y a une donnée importante. Il joue au PSG, Areola. Avec
il a
une
moins
pression,
de ballons.
Moins de ballons, avec une pression haute également.
Le gars est difficile aussi.
Mais là, il joue des matchs avec des champions également. Il joue à un autre niveau.
Là, aujourd'hui, on fait une comparaison. Tu nous poses la question sur de la Ligue 1. Le PSG, pour moi, c'est pas de la Ligue 1, c'est de la Ligue des Champions. Pose-moi la question.
Excusez-moi, c'est
le meilleur gardien de la Champions League.
Si tu penses que le meilleur gardien en France n'est pas Alphonse Areola, un club qui joue la Champions chaque saison, hein, ça va être plus qu'une habitude.
Exactement.
Alors, est-ce qu'Alphonse Areola est calibré, sans statut, pour être le gardien qui, au moment du Money Time en Ligue des Champions, donc sur le premier semestre 2020, encore une fois, puisqu'ils vont sortir la phase de poule normalement, et ben est-ce que c'est ce gardien sur lequel tu pourras te reposer?
Écoutez la réaction.
On a tous un doute.
Écoute la réaction, François, juste après la défaite face à l'Inter Milan, du coach du PSG, Thomas Tuchel. La question lui a été posée. Beaucoup disaient depuis quelques jours que ça y est, il avait tranché, le technicien allemand. Areola est numéro 1. Écoute sa réponse.
Il a bien joué aujourd'hui pour 90 minutes et je pense que Kevin Trapp va jouer contre Sydney 90 minutes et c'est pas le moment pour confirmer des choses. C'est la préparation et on a des concurrents sur tous les postes et tout le monde doit combattre pour le poste et c'est pas maintenant et aujourd'hui le moment pour déclarer des choses.
Donc là, tout est mis à plat. Parce que si Areola est numéro 1, il le dit, là, il parle quand même d'une concurrence. Il remet rien ça à une concurrence au poste de gardien.
Il parle d'émulation. Oui, mais... il parle de concurrence.
Et pourquoi il le dit pas maintenant, alors?
Parce que, pour le club, et lui principalement, les choses ne sont pas encore assez claires, ou bien, il veut pousser ses deux gardiens, puisque je pense que le...
Donc on en revient à
pardon
deux
pour
ans
le
arrière,
troisième,
finalement, quoi.
Le Polonais qu'ils ont pris, son nom m'échappe.
Boulka.
Mais merci, Nico, mais... je pense qu'il veut garder ses deux sous pression et voir, puisque le pouvoir se prend, dans ses deux, avec ses deux garçons, lequel va prendre l'avantage sur l'autre, puisque ça fait pas de mystère que Kevin Trapp est content d'être à Paris.
Alors, les infos qu'on a signées, Loïc Tanzi, hein, qui est actuellement envoyé spécial en Chine, justement, qui suit la tournée du PSG, Paris n'a pas forcément les moyens pour recruter un numéro 1 aujourd'hui, à savoir Donnarumma, par exemple. C'est au moins 50 millions d'euros, Paris n'est pas prêt à les mettre. Martin Dubravka, gardien de Newcastle, est une piste pour être numéro 2 au PSG, en cas de départ de Kevin Trapp, sauf que Trapp était annoncé ces dernières semaines sérieusement à Porto, sauf que Porto finalement a lâché l'affaire, c'est trop compliqué à gérer comme dossier, c'est trop long surtout, donc ça tâtonne clairement, on sait plus quoi faire au
PSG.
Mais
vous pensez...
Et il y a ce fameux troisième gardien, ouais. Marcin Bulska, polonais 19 ans, à Chelsea, zéro match en pro. Ouais. Qu'on estime, qui plaît beaucoup aux dirigeants pour l'instant, qui fait une très belle impression, mais qui n'a jamais joué chez les professionnels.
Ça y a le temps.
Comment, imagine, Areola se blesse, en octobre.
J'imagine même pas ça.
Pas faire une phase de poule de Ligue des Champions, en huitième de finale, avec un gamin de 19 ans, qui n'a aucune expérience en pro.
Mais je l'imagine même pas, on en revient. En revanche.
Donc c'est quoi la solution? Trapp reste, mais Trapp veut pas rester, hein. C'est en numéro 2.
La description, celle que tu viens nous faire sur l'état des lieux, qui est parfaite. Moi, je pense que, encore une fois, et j'insiste, il a pas de statut, et que si le PSG, alors il ne le fera pas, je n'y crois pas, mais si le PSG recrutait un gardien pour qu'il soit numéro 1, donc Trapp, je pense que lui-même, il va à l'aéroport, il rentre, il prend un billet d'avion pour le Francfort ou un autre club qui a envie de lui, il en trouvera parce que c'est un très bon gardien, et voilà, là, tu le tues en revanche à Areola. Parce que justement, quand je dis il a pas de statut, si en plus il est pas numéro 1 cette saison,
oui, mais bon, en même temps,
dans un club, donné, jeu des chaises musicales, c'est toujours lui qui perd.
Ça veut dire qu'il le garderait par défaut à Roland numéro 1.
Mais moi, ce que lui voudra pas.
C'est du par défaut.
Lui, ils voudront lui dire.
Mais ce qui est navrant.
On garde par défaut, mais lui, il va dire non, je me casse, ça suffit.
Ce qui est navrant dans cette histoire, c'est qu'on est le 27 juillet 2019 et que ça fait 3 ans ou voire 4 ans qu'on a un débat sur les gardiens de but à Paris depuis le départ de Sirigu.
T'as un vrai problème.
On a toujours essayé de repousser l'échéance en disant allez, ça va suffire pour cette année, on verra pour l'année prochaine. Il y avait des gardiens de l'Atlético au Black, il y avait d'autres pistes à chaque fois et on a toujours repoussé. Aujourd'hui, on s'est dit que Areola aurait peut-être la stature pour assumer le rôle de gardien du PSG et malheureusement non, c'est aujourd'hui sur ce qui nous montre et au-delà des caillats, des boulettes sur la sérénité qui dégage ce qu'il transmet à ses partenaires, à ses défenseurs. C'est pas assez aujourd'hui pour le PSG.
Je crois deux choses. D'abord, je pense que les deux gardiens Trapp et Rolla sont pas calibrés pour t'amener très très loin en Ligue des Champions. Et je pense que si tu dois garder un des deux, je pense que Trapp a quelques qualités en plus qu'Areola. Plus explosif.
Et s'ils avaient gardé Mike Maignan finalement, tu vois, parti en 2015 du PSG, qui est devenu un très bon gardien de Ligue 1 à Lille, peut-être. Non mais on parlait de Lopez tout à l'heure ou de Benitez. Mike Maignan est peut-être aujourd'hui.
Ouais, il est dans mon top 3. Tu vois, je mets même pas
deux, trois meilleurs gardiens du championnat de France. Ouais. On revient dans un instant, messieurs. On continue le débat sur Areola. Beaucoup d'appels au 32-16 pour évoquer la situation du numéro 1, du 1 bis, 1 2 tiers du Paris Saint-Germain. Vous êtes nombreux. On va vous donner la parole, bien sûr, supporters du PSG avec Damien Perrinel, François Manardo, c'est l'After. On est ensemble jusqu'à minuit.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamin.
Voilà. Et oui, on est là, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est l'Afterfoot avec Damien Perrinel, avec François Manardo, le PSG. Tout à l'heure, tiens, ce rendez-vous, le Mercato Show, bien sûr, traditionnel et qui nous fit du bien l'été, dans les affaires de 3h.
Tout grandement, oui, hein. Il fait beaucoup de bien, monsieur Jamin.
On démarrera le Mercato Show par la situation de Pépé. Attaquant de Lille, Naples était chaud, Arsenal était encore plus. Il pourrait rejoindre les troupes de Unai Emery, selon nos informations, dans les prochaines heures, même si, a priori, le PSG peut-être n'a pas lâché totalement l'affaire dans ce dossier. Pépé, et puis, notre grande page, footballeurs et communication. Pourquoi les footballeurs sont-ils aussi...
mièvres, insipides?
Ouais, lisses, parfois.
Mauvais?
Ouais. Face à la presse.
Parce qu'ils n'ont pas les bons attachés de presse, aussi.
Exactement. T'es bien ce soir. T'es dans le bon casting, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Avec François Manardo, ancien patron de presse de la Fédération Française de Football. Pourquoi sont-ils devenus si froids, si lisses, si tièdes, ces footballeurs? On sera avec des experts de la communication, conseillers en communication des footballeurs, qui vont nous dire comment ils interviennent auprès des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, bien sûr. Alphonse Areola, on réagit beaucoup, 32-16. Tiens, Roger, supporter du Paris Saint-Germain, nous a appelé. Salut, Roger.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Roger. Bon, est-ce qu'on est dur avec Alphonse Areola?
Mais vous n'êtes pas dur, je vous invite à quand vous rentrez chez vous à podcaster l'émission et à réécouter, parce que vous allez voir ce que vous dites des fois à moitié, il y a une partie de vrai, à moitié vous allez toujours trop loin.
Alors qu'est-ce qui est vrai, Roger? Dis-nous.
Attendez, je termine tout ce tour en ce qui concerne le PSG. Ça fait toujours le buzz. Vous avez déjà vous mettez devant la télé pendant les vacances à regarder les matchs amicaux?
On fait que ça.
Quand on écoute là, mon Dieu, c'était catastrophique.
On n'a pas dit catastrophique, Roger.
Ah oui, mais bon, c'est tout court. Je vous invite à vous réécouter. Surtout Monsieur Mariano, c'est son habitude.
Non, Mariano, Mana.
Luis Mariano est là.
Luis Mariano. Excuse-moi.
C'est peu de choses.
Vas-y, Roger, vas-y.
Pas mal.
Oui, mais bon. Allez, voilà, il aurait fait un super match ce soir. Vous aurez dit, jusqu'à maintenant, c'est pas encore ça, il faut voir en match officiel. Alors, on va attendre encore un peu, on sait qui il est, ça peut être un beau gardien, mais est-ce qu'il est en assurance? Comme on dit pour les bébés, est-ce qu'il est bordé de partout? Non, non.
Mais c'est pas un bébé, c'est un grand, c'est un joueur professionnel.
Mais c'est un bébé puisqu'on l'a jamais laissé grandir.
Roger, Damien et moi, on lui a pas fait un costard pour l'été ou la saison qui vient.
Mais pourquoi
on dit qu'il a pas de statut? Du coup, t'es d'accord un peu avec nous?
Mais je parle pas de Areola, je suis d'accord avec vous. Moi, je parle de l'ensemble quand vous avez parlé. Oui, cette défense.
Tu as regardé le match, Roger?
Bonne question.
Pardon?
Est-ce que tu as regardé le match, Roger?
Oui, j'ai regardé le match. C'est mon équipe, je regarde tous les matchs.
Ah, d'accord. Et donc, tu n'as pas trouvé que le PSG avait été mis en difficulté défensivement?
Mais pour moi, ce n'est qu'un match amical. Ce n'est pas le plus important.
Oui, Roger, tu sais, sur un match amical, Roger, t'as des détails parfois qui ne trompent pas, des petites erreurs de placement de 1 mètre ou 2 qui font que derrière... c'est des choses que tu vas retrouver après en 8e de finale contre Manchester United. Ce sont des petits détails que tu retrouves.
Avec ça. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est qu'avec le PSG que... vous disséquez les choses comme ça. Moi je suis très football, j'ai regardé les matchs de Lyon, mais c'était horrible. Et pourtant, vous trouvez qu'il y avait du bon, le petit Lucas, il sort bien les ballons, Mendes, c'est impeccable. Mais regardez tous les matchs et puis squittez-les pareil, dites les mêmes choses avec tout le monde.
Je peux te dire que tu peux me demander
ce que tu veux sur les matchs amicaux de préparation de Lyon. J'ai trois feuilles de notes sur les matchs de Lyon et je les dissèque de la même manière qu'avec le PSG.
Roger, il faut aussi que tu réécoutes tous les podcasts de l'été, hein, et même de la saison dernière.
Monsieur Jamin.
Je suis là, j'écoute des fois à partir de 21h. Si j'ai d'autres choses à faire, t'inquiète pas que dans la nuit, si je dors pas, j'écoute le matin. Mais bon, je fais une parenthèse. Bon. Je fais juste une petite parenthèse après, je vous
laisse. Vas-y, Roger, vas-y.
Sur Gay, c'est bien Gay. Ouais. J'ai entendu que.
Présenté lundi.
Notre petit chinois, trois semaines, un mois avant, dire c'est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain, ça sera impeccable ici et ça. Ça y est, il va signer. On lui trouve toutes sortes de problèmes aujourd'hui.
Alors, Jonathan McCartney n'est pas chinois, il est français.
Non, mais je dis le petit chinois. J'ai dit bien le petit chinois, c'est affectif.
C'est affectif. Oui, ça va François Maillardot voulait réagir.
Oui, François Maillardot, non, voulait dire quelque chose à monsieur Yamin, qui tient les cordes de l'after. Si Roger habite dans la banlieue parisienne ou à Paris, mais pourquoi est-ce qu'on l'inviterait pas à venir voir comment on va venir à l'émission pendant
C'est un auditeur très fidèle de l'after, exactement, Roger, historique.
Exactement, et il verrait que on ne complote pas avant le début de l'émission en se disant tiens, ce soir, on va se faire tel club, c'est-à-dire le triptyque PSG, Lyon, Marseille, comme beaucoup le croient.
Tu n'as pas retenu que nous avons dit de bonnes choses sur Verratti, Sarabia ou Herrera, par exemple.
Non, mais je ne dis pas. Attends, mais
on t'a lancé une invitation.
Il se sent visé, notre Mariano.
Il se sent visé.
Non, écoute, c'est votre ami. Écoute, Daniel le dit.
Damien Perrinel. Il a fait une contraction. Damien Perrinel. Tu vois?
Non, pas comment il s'appelle? Daniel Riolo le dit souvent. C'est machinal au niveau du PSG. Il faut, au fond, mais vous le faites, vous voyez même pas que vous le faites. Il faut balancer une critique. Il faut le faire.
Roger.
C'est ancré en vous.
Bon, on avait compris le message, Roger, en tout cas. On avait compris ton message. Tiens, tu es tellement fidèle à l'after, t'as même un jingle à ton nom. Écoute.
Je termine. Coutinho, je n'en veux pas. Dembélé, je n'en veux pas. Je veux mes 300 millions.
Roger, t'as pas changé d'avis depuis ?
Tu te rends compte ?
Tu n'as pas changé d'avis depuis ?
Non, mais deux minutes, je me suis fait, c'est pas moi qui suis Twitter, mes neveux m'ont dit, je me suis fait démonter sur Twitter par rapport à ça. Ils savent pas qu'il y a une pointe d'humour, ça n'est pas mon argent, ah ouais, c'est l'argent, c'est pas mon argent.
Oui, évidemment.
C'est juste qu'il faut aussi, on est en été, il fait chaud, il faut rigoler, il faut balancer des choses et tout. Mais bon, je vous aime tous, et puis continuez.
Mais nous aussi, on t'aime, Roger. Merci d'avoir appelé au 36. Excellent été.
Bonsoir.
Et écoute l'after, hein, surtout.
Salut.
Toute la saison. Merci. Au revoir, Roger. Excellente soirée. Tiens, sur l'hashtag RMC Live, on propose au PSG en tout cas, oui. Keylor Navas. Pourquoi pas Keylor Navas, champion d'Europe avec le Real, qui n'a joué que 13 fois la saison dernière avec le Real, dans l'ombre de Thibaut Courtois désormais. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que lui aussi a l'étoffe d'un vrai numéro 1?
En tout cas, il a gagné des titres. Voilà,
il a fait
des parades décisives. Il a été décisif à certains moments, il a été critiqué, parfois injustement, mais c'est un gardien aujourd'hui qui a, je ne sais pas, trois Ligues des Champions à son actif. Qu'est-ce qu'on peut critiquer? Combien de Ligas aussi?
Après, c'est le débat, hein, Damien. Faut-il un grand gardien pour gagner la Ligue des Champions?
Oh, bah, ça aide.
Est-ce que c'est une condition indispensable? D'avoir un bon gardien,
déjà,
il me semble que Liverpool avait un souci de gardien, ils ont acheté un gardien, ils ont gagné la Ligue des Champions.
Qui?
Liverpool.
Avec le dénommé Karius.
Bah, c'est ça. Et là,
il souffre quand même d'un traumatisme au cours de cette finale et on s'en aperçoit 48 heures après. Sur une charge qu'on ne voit pas très bien d'ailleurs de Sergio Ramos, mais qui a existé.
Il y a qu'à voir les finalistes, hein, de ces dernières années, ils ont toutes eu de grands gardiens. Hein, il y a eu Oblak, Navas, donc là Becker, on va dire notre petit Hugo Lloris l'année dernière aussi. Voilà, il y a toujours eu un grand gardien en finale.
grand gardien, tu veux dire quoi, Nico? Très grand gardien.
C'est dur. Alors,
on
peut jouer au jeu des chapeaux. Hein, les chapeaux 1, 2, 3, 4. Buffon n'a jamais gagné la Ligue des Champions.
Ouais,
mais bon,
c'est ça,
c'est pas il a été en finale, au moins.
Oui, enfin, pour la gagner, il vaut mieux un mec qui, qui a les bras solides, ouais. Avec tout, quoi. Bon gardien, un très grand gardien.
On a fait un sondage sur le compte Twitter de l'Afterfoot RMC, bien sûr. La question était la suivante. Areola doit-il être le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain? La réponse, non à 65%, oui à 35%. Donc il n'y a pas que nous qui sommes durs avec Areola, peut-être.
Hein.
C'est beaucoup. Il y a une vraie marge entre les pros et les contre Areola en tant que numéro 1 au sein du Paris Saint-Germain.
Parce que la question, là, elle est posée de manière un petit peu vicieuse. Mais dans le contexte du match amical qu'on a vu aujourd'hui, et encore une fois, on a fini sur Areola, juste on va le rappeler, c'est que sur les 7 tirs au but, et les 7 fois, tu l'as dit, il part à contre-pied.
Oui, et puis il y a le but également qu'il encaisse, où il se couche extrêmement lentement. Mais c'est quoi? C'est des sautes de concentration, simplement, parce que c'est un gardien qu'on voit faire des choses géniales parfois.
Mais c'est ce
qu'il
sort
des ballons, que peu de gardiens sortent.
C'est ce que je disais, il peut y avoir 4-0 au bout d'un quart d'heure pour l'Inter. J'exagère un peu, mais ça peut être ça. Et il va te sortir des parades, il te tient la baraque, et on te dit, là, ça y est, il tient le PSG sur ses épaules lors de ce match amical, tout simplement. Mais ouais, voilà, il manque toujours ce petit zeste en plus chez lui, c'est dommage.
Si c'est une question de saute de concentration, en revanche, ils ont le même problème sur les deux gardiens de but. Hein, parce que Trapp, là-dessus, il n'a jamais donné de garantie qu'il avait, en travaillant, amélioré ce défaut qui a coûté quelques buts au Paris Saint-Germain.
C'est vrai, n'oublions pas que Trapp a une
défaite à Madrid, si on s'en souvient.
Voilà pour le cas Alphonse Areola, qui débutera pas mardi. A priori, ce sera Kevin Trapp qui débutera dans le but du PSG face à Sydney. Et samedi, il l'a dit même, Thomas Tuchel, samedi, trophée des champions, PSG Stade Rennais, justement.
Avec quel gardien?
Avec quel gardien?
On verra.
A priori, plutôt Areola. Hein. Je vous rappelle que du côté de Neymar, pour l'instant, il ne devrait pas jouer a priori mardi non plus face à Sydney. Guy Strill est suspendu toujours pour un de ses 3 matchs de suspension. Hein. Pour le trophée des champions, il ne jouera pas non plus les 2 premières journées de Ligue 1 s'il est encore là.
Ni les 3 premières journées de Ligue des Champions.
Donc on le verra si on l'envoie au PSG.
S'il est encore là.
Mi-septembre, fin septembre peut-être. L'after revient dans un instant. Damien Perrinel, François Malardeau, bien sûr. Et dans un instant, on va évoquer un nostalgico. Le Mans Lens cet après-midi. Tu te rappelles?
Oui, monsieur.
Eh oui, Le Mans. MM Arena avec Lens en face, la victoire de Lens. On le saura avec le coach du Mans, un magicien, puisqu'il a fait monter Le Mans 3 fois en 3 saisons en Ligue 2. A tout de suite, c'est l'after, on est ensemble jusqu'à minuit.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Et oui, on est là, c'est l'afterfoot, on est ensemble jusqu'à minuit avec Damien Perrinel, avec François Manardo. Après le Paris Saint-Germain, on va descendre d'un cran, voire de deux. Mais on a vécu une ancienne affiche de Ligue 1. Aujourd'hui, à la MMA Arena, Le Mans face à Lens, suite de la première journée du championnat de France de Ligue 2 qui a débuté hier. Eh bien, Le Mans, pour son grand retour en Ligue 2, a été battu 1-0 dans ce duel de sang et or par le Racing Club de Lens. Pourtant, Le Mans menait 1-0. Je le disais, un grand retour du Mans en Ligue 2. On l'appelle Le Mans, rétrogradé en 2003 en DH. Ligue 2 en 2019, hein, en 6 ans, ils sont montés en Ligue 2, 4 montées en 6 ans, et grâce notamment à tout un club qui s'est remis à travailler, mais aussi à un homme, le coach du Mans, Richard Désiré, l'homme aux 3 montées en 3 saisons, de National 2 en 2016 à la Ligue 2 en 2019. Et bien Richard Désiré, il est avec nous, bonsoir Richard.
Bonsoir messieurs.
Et merci d'être avec nous de l'After, on est très heureux de vous avoir, vous êtes heureux d'être avec nous aussi j'imagine.
Oui absolument, ce que je disais, malgré la défaite, il faut assumer toujours, et puis comme c'est une première... pour le club en Ligue 2 depuis très longtemps, c'est normal de jouer et de ce soir.
17 000 personnes hein, à la MM Arena. Hein. C'est
ouais,
un succès déjà, ça.
Ouais, un 27 juillet à 15h hein, sur un match télévisé, c'est effectivement une belle réussite. Et là aussi, ça marque les étapes du parcours depuis le dépôt de bilan de 2013. Il y a 3 ans, on jouait à la Pince-Nardière au centre d'entraînement le dimanche après-midi parce qu'on n'avait pas de stade. Et,
devant combien et quelques centaines de personnes?
Il y avait 300-400 spectateurs.
Oui.
Et puis 9000 de moyenne sur les matchs officiels la saison dernière, 17000 pour ce premier match, mais pas de points, et c'est le seul bémol de la journée.
Voilà, ça démarre par une défaite, hein, mais encourageant notamment sur la première période, je crois.
Hein. Ouais, on a fait un très très bon match, on aurait dû avoir au moins 2 buts d'avance à la pause, ce qu'on n'a pas su faire. Et puis on a un petit peu reculé, on a manqué d'efficacité, et puis Lens est aussi le très grand favori de ce championnat, de super joueurs. Et puis, ils ont su inverser la tendance dans la dernière demi-heure, marquer le deuxième à 7 minutes de la fin. On aurait au moins, au minimum, mérité de partager les points. Mais dans le foot, il faut être beaucoup plus réaliste qu'on ne l'a été aujourd'hui. C'est la première leçon.
Damien Perrinel.
Bonsoir, coach. Bah, finalement, bonsoir. Un an après, on se parle, on s'est au téléphone, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
Ouais. Explique pourquoi, Damien, quand même.
Ah, non, mais parce qu'on avait, dialogué pendant environ une heure, c'était au mois de juin dernier, il me semble, en saison 2018. Et, voilà, on avait eu un bon contact avec le coach. Et puis après, les choses ont fait que.
Pour éventuellement rejoindre le Mans
à l'époque, mais les choses ont fait que ça, il n'y a pas eu de, ce n'est pas allé plus loin.
Pourquoi? Attends, on va lui demander.
Ah bah, ça, c'est pas, Richard, c'est pas à moi de répondre.
Vous avez pas un regret immense de pas avoir recruté Damien Perrinel?
J'ai eu grand plaisir à pouvoir discuter une heure avec quelqu'un qui connaît le foot et qui a la tête sur les épaules. Le premier contact, je l'ai toujours. Après, c'est chose qui s'opère en interne au niveau du club sur le recrutement. Et,
ouais, il demandait beaucoup trop d'argent, hein, Damien.
Ouais, c'est ça,
on avait la 7 ou 8e masse salariale nationale la saison dernière.
Ah, il est cher.
On n'est pas là pour vous demander des comptes, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une blague.
J'ai bien compris.
Ouais, non, donc sur ce match. On va dire que c'est un apprentissage de la Ligue 2 ultra rapide parce que vous avez proposé du jeu, notamment en première mi-temps. Moi, j'ai revu en première mi-temps, j'ai revu l'équipe qui avait fait un bon 32e de finale, c'est ça, contre Lille l'année dernière, ou avec vraiment de l'allant, de l'envie, de l'enthousiasme dans ce jeu et même sur vos matchs de barrage pour l'accession en Ligue 2. Et malheureusement, comme vous l'avez signifié, ce fameux réalisme en fait. Et c'est vraiment à l'image de la Ligue 2 où c'est pas forcément celui qui joue le mieux, mais celui qui est plus efficace dans les deux surfaces qui l'emporte souvent.
On peut toujours donner les impressions qu'on veut sur les statistiques, mais sur ce match-là, il y a une possession qui est partagée, donc un match équilibré. Il y a de super joueurs à Lens, je l'ai dit, mais je le redis encore, il n'y a pas photo sur les budgets, sur les ambitions, sur la qualité des joueurs. Néanmoins, sur ce qu'on a pu proposer, il y a vraiment eu des choses intéressantes. Effectivement, dans la lignée de ce que on propose depuis 3 ans, on cherche à bien utiliser le ballon et par rapport à ça, en revenant aux statistiques, on a tiré 17 fois au but, on a cadré que 4 fois, eux ont tiré que 9 fois au but, on cadrait 5 fois, mais 2 fois Thuram a fait un arrêt de dingue, mon gardien de but, et ils ont marqué 2 fois, on n'a pas été assez efficace, dans des situations favorables, on a manqué de maîtrise, c'est un peu précipité. C'est un premier match de Ligue 2 pour au moins la moitié de l'effectif du Mans. Il y avait effectivement du monde, c'était Lens en face. Je suis content parce qu'on n'a pas été inhibé par l'enjeu, mais on n'a pas su tenir la cadence et la distance dans le tempo du match, ce qu'on a pu proposer et dans l'efficacité qui est obligatoirement nécessaire dans les deux surfaces.
Richard Désiré, coach du Mans avec nous dans l'after. Tiens, écoutez ce que disait Steven Fortes, un défenseur du Racing Club de Lens à propos de votre équipe.
Mi-temps physiquement et sur tous les domaines, c'était au-dessus de nous. Maintenant, est-ce que c'était l'euphorie du premier match en Ligue 2, dans leur stade, etc. Je sais pas. Mais bon, on a su répondre présent et avoir une bonne réaction sur la deuxième mi-temps. Et je pense que Le Mans, si ils prennent un petit peu d'expérience dans le jeu, ils peuvent faire quelque chose de beau cette année en Ligue 2.
C'est sympa ce qu'il dit Steven Fortes là.
Ouais, Philippe Pompagnier m'a dit la même chose à la fin. Moi qui connais bien Philippe pour l'avoir eu au BEPF l'an dernier, au départ en tant que formateur, c'est sympa, mais je connais pas de défaite encourageante. Alors oui, il y a des motifs de satisfaction, il y a des motifs évidemment.
Ça existe, des défaites encourageantes.
Ouais, bien sûr, mais il y a toujours un danger de se dire quand on joue bien, il faut réussir obligatoirement à matérialiser parce que l'ouverture du compteur point est très importante à mes yeux. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On va hausser la semaine prochaine. Il pourrait très bien y avoir un match déjà avec un peu plus de pression contre Valenciennes dans 15 jours. Et après, la qualité du jeu peut s'étioler. Donc, il faut se servir évidemment de tous les points positifs de ce match cet après-midi. Mais il faut pas se gargariser de ça non plus. Je pense que le meilleur moyen de gagner des matchs, c'est effectivement de bien utiliser le ballon. On va pas changer notre philosophie. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus tueurs. Et que au quotidien à l'entraînement on soit dans cet état d'esprit parce que on a été sanctionné par des joueurs qui sont plus expérimentés et qui sont partis Alors, je vais pas dire que c'est un hold-up, mais voilà, au minimum, on devait partager les points et c'est déjà une première leçon qu'il faudra retenir extrêmement vite si on veut pas subir d'autres déconvenues.
François.
Ouais, coach, bonsoir. Je vous écoutais, je vous trouve exigeant, je vous connais pas, hein, mais je vous trouve exigeant avec vos joueurs et donc le club là par rapport à ce premier match. Dans le retour dans l'élite professionnelle et face à face au RC Lens, mais je vous trouve aussi un petit peu dur parce que vous avez quand même joué, alors même si c'était à domicile, mais vous avez quand même joué un candidat à l'accession en Ligue 1, peut-être le principal, le candidat le plus fort pour Lorient, cette montée en L1. Et on sait d'où vous venez, Nicolas a résumé. Enfin, il n'y a rien d'infamant dans cette première défaite. Et vous disiez qu'il n'y a pas de défaite encourageante, mais il peut y avoir des défaites honteuses. Et je pense que c'est absolument pas le cas du Mans cet après-midi.
Je valide, je m'inscris à 100% dans ce que vous dites. J'ai pas dit non plus le contraire. Mais quand on sent qu'on a la possibilité sur la physionomie du match et sur le contenu du match de prendre un ou trois points et qu'on les prend pas, il y a forcément beaucoup de frustration et j'ai pas envie qu'on s'inscrive dans cette frustration trop souvent dans la saison. Ça a beau être Lens, on joue tous les matchs, j'ai le même discours, quelle que soit la division dans laquelle on a pu se trouver. Ok, on est triple promu, vous vous rendez compte, on vient de monter trois fois de suite.
C'est incroyable, mais comment vous avez fait d'ailleurs, Richard,
ouais, hein,
Richard.
Mais on n'oublie pas justement d'où on vient.
Non, mais comment vous avez fait ça? Parce que c'est unique, trois montées en trois ans. Non, mais c'est vrai, c'est une question. Ouais. Je ne demande pas quelle est la recette magique, parce que ça. Ou la potion, mais ça n'existe pas.
On s'est toujours mis à la hauteur des stades, des clubs qu'on pouvait rencontrer. On était vraiment favoris en CFA 2 et en CFA, enfin National 2 maintenant. C'était beaucoup plus compliqué la saison dernière. Ça fait trois ans qu'on est attendu partout, dans tous les stades, toutes les équipes, parce que c'est Le Mans dans ce monde amateur. Là, on est avec un costume où on n'était pas favoris cet après-midi, ce qui était assez rare sur ces dernières années. Donc, c'était un peu plus confortable de pouvoir préparer ce type de match. Et effectivement, si on sait qu'on joue le grand favori, si on sait qu'on joue l'équipe qui est destinée à monter en Ligue 1, à finir première, on va se dire qu'on a fait un bon match. Je ne vais pas dire le contraire. Je l'ai dit aux joueurs à l'issue du match, mais c'est la déception qui primait, parce qu'on est des compétiteurs. Et on a beau savoir d'où on vient depuis trois ans, parce qu'il y a encore pas mal de joueurs dans l'effectif qui ont connu une, deux, voire les trois montées. On a envie de gagner chacun des matchs qui se présentent à nous, et c'est une question d'état d'esprit. C'est pas un manque d'humilité, hein, c'est de l'ambition, c'est de la volonté. C'est pour ça qu'on est frustré, parce que on pensait souffrir beaucoup plus qu'on a souffert cet après-midi. Ça a été le cas par moments, et c'est dommage. Il y a une pointe de déception. Je suis encore à chaud. Le match est terminé. Il y a 5 heures, et forcément, il y a un peu de déception encore.
Merci en tout cas, Richard Désiré, de nous avoir répondu. Vous êtes une excellente saison, vous avez raison. Auxerre, la semaine prochaine, le 2 août, qui a été battu aussi hier soir, l'équipe de Jean-Marc Furlan, qu'on a eu hier soir d'ailleurs dans l'after.
Et sachez qu'il redoute de jouer justement deux promus de suite, parce que avec ce phénomène d'envie, voilà, c'est compliqué pour des clubs aussi comme Auxerre de jouer contre des équipes comme vous.
J'espère que ça sera le cas encore la semaine prochaine, mais j'aurai plaisir à rencontrer Jean-Marc, qui fait extrêmement bien jouer ses équipes. Ça sera un bon match, je l'espère.
Encore un adepte du furlanisme, hein, qu'on a lancé dans l'after, justement, avec Jonathan Lacardi. Merci beaucoup.
Merci, coach.
Bonne chance cette saison,
merci,
bien sûr.
Oui. Non,
le Mans, les gars, c'est un événement. Citez-moi des joueurs emblématiques du Mans, allez-y.
Gervinho.
Ouais.
Thomas.
À toi, François.
Graffit.
Ouais.
Cessegnon.
Pancrate.
Bien, on y va.
Tullio de Melo.
Tu veux des mélos?
Ouais.
Mais un immense joueur. Immense joueur.
Matsui.
Bon, je pensais pas à lui.
Un immense joueur.
Ivoirien.
Mais Gervinho, je dis.
Drogba.
Didier Drogba.
Ah oui.
Daniel Cousin également.
Avant Guingamp.
Laurent Perlade, messieurs.
Aujourd'hui, coach de Rodez.
Exactement.
Laurent Perlade, messieurs. Laurent
Réginald de Ré. C'est plus facile, hein.
Jeff Bédénic.
Graffité.
Ça,
elle
est pour le pote.
Hein. Grande époque, hein. Ah, c'est le pote Bédénic. Très bien. Voilà pour le Mans. On est avec au 32-16, Mounir, supporter du Racing Club de Lens. Salut, Mounir.
Salut tout le monde.
Salut, Mounir.
Bon, t'as vu le match. Comment tu sens ton RC Lens cette saison? Ça fait quoi? 5 ans maintenant que Lens court après la montée en Ligue 1. C'est pas passé loin la saison dernière. Est-ce que tu penses, comme le dit François, que c'est, allez, un top 2, top 3 pour la montée?
Bah, on sait jamais, surtout quand tu supportes Lens, que tu suis régulièrement ce club, chaque année, enfin quasiment, tu passes à côté de pas grand-chose, sauf il y a deux ans où il jouait le maintien en finale. Mais là, ce qui nous rend un peu plus optimiste, c'est la préparation du mercato. Où là, la plupart des arrivées, en fait, ils ont été bouclés bien avant en fait la préparation d'avant-saison. Et ouais, c'est de bon augure. Du coup, les six premières semaines du mercato, ils l'ont super bien géré au niveau de des arrivées et quelques départs. Là, maintenant, c'est le sprint final, j'irai sur la dernière ligne droite du mercato. Où là, il faudra faire de la gestion et bien gérer les probables départs. Parce que là, en fait, avec le cas du Verne, où il fait grève d'entraînement et puis que dans sa tête, c'est totalement acté. Il y a apparemment Tarat, l'Algérien,
oui,
qui a annoncé partant, apparemment. Et aussi Gomis, qui était le meilleur buteur du club.
Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, en fait, cette équipe, elle n'est pas prête du tout. Sur ce qu'on a vu aujourd'hui, je parle au Mans. Déjà, c'est une équipe qui a fini très tard la saison dernière à cause des barrages, qui a repris du coup aussi très tard. Il me semble que c'était début juillet, alors que les autres équipes de Ligue 2 ont repris le 20 juin. Et c'est une équipe, ouais, que physiquement n'est pas prête. Il n'y a qu'à voir même au niveau défensif. On a eu pas mal de difficultés défensivement du côté sur les latéraux. Et sur cette défense, il n'y a que Fortes par rapport à la saison dernière. Et le problème de Lens, c'est qu'on a du mal à trouver une continuité d'une saison sur l'autre. Alors vous avez fait de super recrues. Moi, je vois un Cahuzac, voilà, qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui est une super recrue pour ce club. Voilà, mais en fait, c'est ce manque de continuité dans l'effectif qui peut peut-être causer un petit retard à l'allumage.
Ah, t'as totalement pointé du doigt en fait, hein, Damien. Le réel problème de ce match, c'était surtout peut-être certainement sur la préparation qui était bien plus courte et surtout sur l'aspect défensif où c'était une catastrophe, quoi. Ils s'en sortent bien avec les trois points. C'était pas mérité, le nul, je pense, c'était plus mérité en vue de la physionomie du match. Mais quand tu regardes bien la défense, c'était, sur le plan individuel, c'était ultra faible. Tu vois qu'il te manquait des leaders, des tauliers, un peu comme Radovanovic sur les six premiers mois de la saison, qui était remarquable l'an passé. Meditarat aussi. Tu vois qu'il manque Duverne. Et les latéraux, ça a toujours pêché, hein. À Lens, à part Santons, qui était bon à aller sur deux tiers de la saison. Mais je suis un peu déçu, ouais, sur le recrutement des latéraux, à voir ce que ça va donner par la suite, hein. Il faut toujours laisser sa chance, on peut pas juger que sur un match. Mais avec des tollés comme Radovanovic ou Tarat ou Duverne, je le répète, c'est que voilà, ils ont apporté un peu plus de sérénité et ça aurait été nettement mieux, parce que là c'était vraiment une catastrophe. Après, comme tu dis, qu'on peut pas rester sur la même continuité sur l'effectif, bah le problème c'est qu'ils doivent répondre aux exigences, hein, sur le plan financier. Là, c'est quoi, c'est 10 à 15 millions de pertes par an. Du coup, tu dois toujours brader, enfin du moins vendre et débarrasser des meilleurs éléments. Là,
bien sûr,
c'était Bellegarde.
Mais malgré ça, ça reste quand même c'est le plus gros budget en Ligue 2, il me semble. Hein. Mais
après, largement.
Ouais, au niveau du recrutement, par contre, vous avez pris, je pense, de bons joueurs de football. Voilà, ça va jouer. Si le coach Montagné arrive à mettre en place les choses, ça peut jouer au foot, comparé à l'année dernière, où c'est un peu plus compliqué, je trouve, de ce point de vue-là.
Merci Mounir d'avoir appelé au 32-16.
Bien, bonne soirée.
Eh ben, on souhaite la montée enfin pour le Racing Club de Lens en Ligue 1. Ça fera du bien à la Ligue 1 également, à retrouver Bollard dans l'élite du football français. On revient dans un instant pour la suite de l'after. On est ensemble jusqu'à minuit avec François Malardou, avec Damien Perrinel, bien sûr. Fabien Mercadal sera avec nous dans un instant, coach du Cercle Bruges désormais, propriété de l'AS Monaco. Il vient de jouer et lancer le championnat belge aujourd'hui, puis le Mercato Show bien sûr. Et la question, les joueurs et leur communication, les footballeurs pardon, et leur communication, pourquoi sont-ils si tièdes depuis des années? Est-ce la faute de François Malardo, qui est tout en haut de la Tour d'Ivoire,
Maillard,
la Fédération française de football,
oh bah tout est
a lancé tous ses conseils et a inondé le foot français de ses conseils? L'after revient dans un instant, à tout de suite.
RMC, l'after foot.